Bonjour, cher frère. Il y a quelques jours, j'ai effectué une recherche rapide sur Google concernant les 10 statues les plus célèbres du monde. J'ai cherché les statues les plus célèbres du monde, et le premier résultat a révélé ce qui est reconnu comme étant les 10 statues les plus célèbres du monde. Et en tête de liste se trouve la Statue de la Liberté, comme vous l'avez peut-être deviné. C'est une icône. Que vous soyez américain ou non, vous avez probablement entendu parler ou vu des photos de la Statue de la Liberté. Il y a le faux Christ au Brésil, Christ Rédempteur, comme on l'appelle. C'était le deuxième de la liste. Troisièmement, le grand sphinx d'Égypte. Ce sont probablement des images qui nous viennent assez facilement à l'esprit. Je passe sur la quatrième, nous y reviendrons. Il y a les figures de l'île de Pâques, ces grosses têtes de pierre, qui nous sont probablement familières. Il y a la statue de l'unité en Inde. C'est en fait la statue la plus haute du monde, celle d'un homme d'État indien. Bien connue des Indiens, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Il y a David en Italie. Vous savez, une représentation de Michel-Ange censée être David. Une autre sculpture très célèbre. Il y a le grand Bouddha au Japon. Il y a Vénus ou Aphrodite en France. Et il y a une statue appelée la Patriapelle en Russie, cette femme géante avec une épée. Chacune de ces statues que nous avons brièvement examinées est porteuse d'une grande signification pour ceux qui y sont associés. Vous savez, si vous êtes américain, la Statue de la Liberté signifie quelque chose. Si vous êtes en Inde, elle peut avoir une certaine signification dans votre esprit, mais elle n'attise pas les émotions comme elle le ferait si vous étiez américain. Tout comme la statue de, quel est son nom? La Statue de l'Unité en Inde ne fait pas grand-chose pour nous, américains. Chacune de ces statues a une signification pour ceux qui s'y identifient, mais j'en ai oublié une, qui a un attrait plus universel, et c'est le penseur. Quelqu'un a-t-il déjà vu cette statue du penseur? Il s'agit d'un homme assis, qui a le poing comme cela, le menton baissé, et qui est simplement assis en train de réfléchir. La statue originale du penseur se trouve à Paris. Je crois qu'elle a été créée par un sculpteur français, mais il existe d'autres moulages réalisés par le même artiste dans le monde entier. Il y en a une à Cleveland, pas très loin d'ici. Vous pouvez y aller et regarder cet homme qui regarde vers le bas. On peut se demander à quoi il pense. Il s'agit d'une statue, il ne pense à rien, mais laissons l'imagination vagabonder. À quoi pense-t-il? Cela n'a rien à voir avec les États-Unis, ni avec l'Inde, ni avec la Russie, ni avec l'île de Pâques au Chili. Il s'agit d'une question universelle, car la pensée est à la base même de la vie. Il y a une citation de Marc Aurèle, que vous avez peut-être déjà entendue. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Vous avez peut-être déjà entendu ce dicton. Nous sommes la somme de nos pensées, mais le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Un autre de mes dictons préférés, semer une pensée, récolter une action. Sème une action, récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un caractère. Semer un caractère, récolter un destin. Nos pensées finissent donc par former notre caractère, qui finit par déterminer où nous allons ou si nous allons même exister pour l'éternité. Les pensées sont à la base de tout. Dans les années 80, mon grand-père était en très bonne santé, mais alors qu'il traversait la rue, il a été renversé par une voiture et s'est retrouvé partiellement paralysé. Pendant les 5 années qui ont suivi, son état s'est détérioré de plus en plus, au point qu'il ne pouvait plus se déplacer. Je crois qu'il était cloué au lit. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas agir, Mais ils pouvaient encore parler et penser. Il y a même des personnes paralysées qui ne peuvent que penser. Elles ne peuvent pas communiquer, mais le fait même qu'elles aient encore une conscience, le fait même qu'elles puissent penser, prouve qu'il y a de la vie. Passez au psaume 1, 46 si vous le voulez bien. Psaume 1, 46. La pensée est le fondement, dans un certain sens, de la vie. Le verset 4 du psaume 1, 46 parle de la mort d'une personne, son souffle s'en va, il retourne à la terre. En ce jour même, ses pensées périssent. Je crois que c'est Salomon qui a dit, les morts ne savent rien. Le jour où nous mourrons, le jour où une personne meurt, ses pensées disparaissent. Elle cesse de penser. Avant cela, même s'il est paralysé, sur un lit, qu'il ne peut rien bouger, qu'il est branché à une perfusion, tant que des pensées traversent son esprit, où il y a même des gens dans le coma, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Tant que la pensée circule dans l'esprit, il y a de la vie. Tout s'arrête lorsque la pensée cesse dans notre existence physique. Genèse, chapitre 1. Genèse 1. Nous parlons bien sûr de la pensée. Nous verrons plus tard ce que nous pensons, ce dont nous parlons à propos de la pensée, mais la pensée est notre sujet. Genèse 1, premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis nous comprenons la grande pause entre les versets 1 et 2. La terre devint informe et vide, elle fut détruite, elle n'était plus telle que Dieu l'avait créée à l'origine. Ce n'est pas notre sujet ici, mais elle devint informe et vide, et il y eut des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. C'est la recréation qui s'est produite il y a environ 6000 ans, comme nous l'avons lu dans la Genèse, mais la plupart des gens, ou beaucoup de gens, ne comprennent pas ce que nous comprenons, c'est-à-dire que la Bible commence en fait, le récit de la création commence en fait au chapitre 1 de Jean. Tournons-nous vers le chapitre 1 de Jean et regardons ces quelques versets sous un angle différent, à travers la lentille de la pensée. Jean 1 et verset 1. Au commencement était la parole. Les premiers mots au commencement sont les mêmes que dans la Genèse 1, mais cela remonte jusqu'au commencement. Cela va jusqu'à l'éternité, qui techniquement n'a pas de commencement, mais c'est ainsi qu'elle est caractérisée. Au commencement, avant que rien de ce qui nous entoure n'existe, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il en était de même au commencement avec Dieu, ces deux êtres divins qui existaient avant toute chose, qui ont toujours existé, ils étaient assis là, si je peux m'exprimer ainsi, respectueusement, bien sûr. Et un jour, une pensée leur est venue à l'esprit, une pensée. Nous parlons du pouvoir de la pensée. C'est ainsi que tout a commencé. Et ils ont décidé de créer, ce qui a finalement conduit à notre création. Verset 3. Tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait, rien n'a été fait qui ait été fait. Mais avant toute création, il y a eu une pensée, une planification, une détermination à nous créer. Proverbe 23, 6. Nos pensées, mes frères, contrôlent ce que nous sommes. Ce sont des pensées incroyablement puissantes. Proverbe 23. Ils sont la genèse de tout. Proverbe 23. Oui, Dieu a toujours été là, mais tout ce qui a suivi est né de pensées produites par Dieu. Proverbe 23, verset 6. Ne mangez pas le pain de celui qui a l'œil mauvais, et ne désirez pas ses mets délicats. Car tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Nos pensées contrôlent ce que nous sommes. Si quelqu'un a un mauvais œil, comme le dit Salomon, il est tel qu'il pense dans son cœur. S'il pense mal, il est mauvais. Mangez et buvez, vous dit-il, mais son cœur n'est pas avec vous. Le morceau que tu as mangé, tu le vomiras et tu perdras tes douces paroles. Cela revient à dire que si quelqu'un pense le mal, il est mauvais. Mais l'inverse est vrai. Retournez au chapitre 12, Proverbe 12. L'inverse est vrai, juste là, dans Proverbe 23. Mais ici, c'est dit explicitement au chapitre 12, verset 5. Nous allons lire la première moitié du verset. Les pensées du juste sont justes. C'est une affirmation très claire, facile à comprendre. Si tu es juste, tes pensées sont justes, dit Salomon. Si vous êtes mauvais, vos pensées sont mauvaises. L'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Les pensées des justes sont justes. Elles sont correctes. La droiture est le fondement de la justice. Nos pensées, une fois de plus, sont tout. La pensée est le fondement de tout. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul objectif, nous amener à réfléchir davantage à nos pensées d'ici la fin de ce sermon. Je veux que nous réfléchissions davantage à notre façon de penser d'ici la fin de ce sermon. Si, à la fin de ce sermon, au cours de la semaine prochaine et, je l'espère, pour le reste de votre vie physique, vous pensez davantage à la pensée, à ce qui se passe entre nos deux oreilles, j'aurai atteint mon objectif très simple. Commençons donc par parler des pensées de Dieu. Nous avons vu, nous avons revu certaines de ses premières pensées. Il a certainement eu d'autres pensées avant de décider de créer. Nous avons examiné l'une des premières pensées de Dieu. Mais que dit la Bible sur les pensées de Dieu? Nous avons probablement tous vu à la télévision, lu dans des livres ou rencontré des personnes censées être des penseurs profonds. Cette personne est un penseur profond. Elle en sait beaucoup sur tel ou tel sujet. En fait, le terme « penseur profond » trouve son origine dans la Bible. Passez au psaume 92, s'il vous plaît. Psaume 92. Nous voulons tous, bien sûr, être des penseurs profonds dans le bon sens du terme, mais qui est le penseur profond par excellence? Psaume 92, verset 1. Un psaume pour le jour du sabbat, adapté à la situation, à lire ici. Il est bon de rendre grâce à l'Éternel et de chanter les louanges de ton nom, ô Très Haut, de manifester ta bonté dès le matin et ta fidélité chaque soir, sur un instrument à 10 cordes, et sur la harpe, avec un son solennel. Nous venons de chanter les louanges de Dieu. Car toi, Seigneur, tu m'as réjoui par ta parole. Au verset 4, par ton œuvre. Excusez-moi, je triompherai par l'œuvre de tes mains. Seigneur, que tes œuvres sont grandes. Et tes pensées sont très profondes. Dieu est l'ultime penseur profond. Il a des pensées profondes que nous, en tant que chrétiens, nous efforçons de comprendre afin de les utiliser pour devenir plus semblables à lui. Nous apprenons de l'ultime penseur profond, si je peux m'exprimer ainsi. Verset 6, l'homme stupide ne le sait pas, et l'insensé ne le comprend pas. Mais nous ne sommes pas des fous. Nous comprenons que Dieu est l'ultime penseur profond et que les pensées de Dieu sont permanentes. Elles sont éternelles. Elles ont un poids et une signification. Psaume 33. Psaume 33. Passez beaucoup de temps dans les psaumes aujourd'hui. De nombreuses observations sur Dieu et sur l'esprit humain sont consignées dans les psaumes, les proverbes et même les prophètes. Même les prophètes. Passez beaucoup de temps dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Psaume 33 et verset 8. Les pensées de Dieu sont éternelles. Verset 8. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde soient dans l'admiration devant lui. Car il a parlé, et la chose s'est faite. Il a ordonné, et la chose s'est accomplie. Il a donné un ordre, et il a été exécuté. Heureusement, il avait la capacité de réaliser ses rêves, ses pensées, sinon nous ne serions pas ici. Il l'a ordonné et il a tenu bon. Le Seigneur réduit à néant les conseils des païens. Il réduit à néant les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste pour toujours, les pensées de son cœur pour toutes les générations. Les pensées de l'ultime penseur profond durent, elles ont de la substance. Elles sont matérielles, elles sont permanentes. Et son dessein, lorsqu'il pense à quelque chose et qu'il décide de faire quelque chose, son dessein est inarrêtable. Job 42. Job 42. On ne peut pas l'arrêter. Tout cela devrait être évident, est évident à première vue pour nous, mais plus nous pouvons méditer sur ces choses, plus nous pouvons penser à ces choses, plus nous penserons à penser. C'est notre but. Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout, et qu'aucune pensée ne peut te résister. Tout ce qui entre dans l'Esprit de Dieu, s'il décide de le faire, ne peut lui échapper. » Job l'a reconnu après une longue et pénible épreuve. Verset 3. Qui est celui qui cache un conseil sans le connaître? C'est pourquoi j'ai dit ce que je ne comprenais pas. Des choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Il n'a compris la suprématie de Dieu qu'à la fin de son épreuve. Écoute, je te prie, et je parlerai, je te demanderai, et je t'annoncerai à moi. J'ai entendu parler de toi par l'oreille, mais maintenant mon œil te voit. Je vois que tu es le Dieu imparable qui a de grandes pensées, qui a des pensées profondes qui ne peuvent pas être cachées, aurait pu dire Job. C'est pourquoi je m'abhorre et je me repens dans la poussière et la cendre. Il a reconnu son infériorité par rapport à cet être. C'était le point de vue de Job sur les pensées de Dieu, mais voici Dieu lui-même dans Ésaïe. C'est ce que Dieu lui-même dit à propos de sa façon de penser. Bien entendu, et nous y reviendrons, nous nous efforçons de penser comme Dieu. Nous voulons avoir les mêmes pensées profondes et, bien que nous n'ayons peut-être pas encore la capacité de les réaliser, nous sommes certainement en train de nous entraîner pour cela. C'est une vocation étonnante à laquelle nous avons été appelés. Ésaïe 14. Voici les paroles de Dieu à ce sujet. C'est ce que Job a conclu après avoir été soumis à l'une des épreuves les plus singulières qu'un être humain ait jamais endurées. Voici Dieu. Ésaïe 14 et le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré, en disant, « Ce que j'ai pensé s'accomplira, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Dieu ne s'engage pas dans une réflexion bâclée, si je puis m'exprimer ainsi. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Alors son joug s'éloignera d'eux, et son fardeau sera déchargé de leurs épaules. Tel est le dessein qui s'étend sur toute la terre, telle est la main qui s'étend sur toutes les nations. Car le Seigneur des armées a fait ce projet, et qui le démentira. S'il décide de faire quelque chose, rien ne peut l'arrêter. S'il pense quelque chose, cela s'accomplira, et sa main est étendue, qui la fera reculer. Les pensées de Dieu sont incroyablement puissantes. Incroyablement puissantes. Il peut penser à tout ce qu'il veut. Il pense à des choses dont nous n'avons même pas idée. Des choses en dehors de ce royaume que nous n'avons probablement pas encore vues ou comprises, et pourtant il passe beaucoup de temps à penser à quelque chose de très spécifique. Psaume chapitre 40. Il passe beaucoup de temps. Je sais qu'il habite en dehors de l'espace et du temps, mais pour notre discussion ici, il passe beaucoup de temps à penser à quelque chose de très spécifique. Revenons au psaume. Psaume 40. Psaume chapitre 40 et verset 1. David parle ici. J'ai attendu l'Éternel avec patience, et il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri. Il m'a fait remonter d'une fosse affreuse, de la boue, il a posé mes pieds sur un rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, ils craindront et se confieront à l'Éternel. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel, et qui ne respecte ni les orgueilleux, ni ceux qui se détournent vers le mensonge. Ici, au verset 5, il est dit, « Tes merveilles sont nombreuses, Seigneur, mon Dieu, les œuvres que tu as faites, et les pensées que tu as eues à notre égard. » Il passe beaucoup de temps à se soucier de nous, à penser à nous. Ses pensées sont nombreuses et tournées vers nous. Elles ne peuvent pas être calculées pour vous. On ne peut même pas les calculer. Elles sont si nombreuses. Si je voulais les déclarer et en parler, elles sont plus nombreuses qu'on ne peut les compter. C'est étonnant. Je veux dire qu'il pensait à nous bien avant que nous n'existions. D'innombrables pensées à notre sujet. Ainsi, cet être qui est un penseur profond, qui est toujours en train de penser, qui est toujours en train de réaliser les choses qui relèvent de son imagination, de sa capacité de penser, passe peut-être plus de temps que toute autre chose à penser à vous et à moi. C'est incroyable. Incroyable. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as pas demandé de holocauste ni de sacrifice pour le péché. J'ai dit, voici. J'entre dans le livre, il est écrit de moi, je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, ta loi est au-dedans de mon cœur. J'ai prêché la justice dans la grande assemblée, je n'ai pas retenu mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur. J'ai proclamé ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas caché ta bonté et ta vérité à la grande assemblée. Y compris sur la façon dont il pense à nous. Ne me refuse pas ta bonté, Seigneur, et que ta bonté et ta vérité me gardent toujours. Que ta bonté et ta vérité me gardent toujours. Car des maux innombrables m'entourent, mes iniquités me saisissent, et je ne peux plus regarder en haut. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur est en défaillance. Il te plaît, Seigneur, de me délivrer. Seigneur, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confondus tous ensemble, ceux qui en veulent à mon âme pour la détruire. Qu'ils soient repoussés et couverts de honte, ceux qui me veulent du mal. Qu'ils soient désolés, en récompense de leur ignominie, ceux qui me disent « Ah ! Ah ! » Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, que le Seigneur soit magnifié. Nous sommes ces gens-là. Je suis pauvre et indigent, et le Seigneur pense à moi. Malgré la pauvreté et le besoin de chacun d'entre nous, malgré la fragilité de chacun d'entre nous par rapport à Dieu, le Seigneur pense à nous. Tu es mon aide et mon libérateur, ne tarde pas, ô mon Dieu. Peu importe ce que nous traversons dans la vie, le Seigneur pense à nous, tu es mon secours et mon libérateur, ne tarde pas, ô mon Dieu. Les pensées de Dieu ne peuvent être arrêtées. Il pense continuellement à nous et ce sont de bonnes pensées. Jérémie 29. Ce sont de bonnes pensées. Ce sont des pensées merveilleuses qu'il a pour nous. Il ne regarde pas vers le bas et, vous savez, ne s'en prend pas à nous pour tout ce qui va mal. Oui, il veut que nous nous améliorions, tout comme un parent humain ne dénigre pas constamment son enfant, tout comme un parent humain cherche le succès, le bien de son enfant, il en est de même avec Dieu, notre parent ultime. Jérémie 29. 11. Il a une bonne opinion de nous. Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Jérémie 29, 11. Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner une fin heureuse. Il a un plan pour chacun. Il a un plan très spécial et spécifique pour nous. Il veut nous donner cette fin attendue. Alors, vous m'invoquerez, vous irez me prier, et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. Vous me trouverez, dit l'Éternel, et je ferai retourner vos captifs. Il s'agit d'un temps ultérieur, mais qui s'applique à nous en ce sens que Dieu a de bonnes pensées à notre égard. Dieu a des pensées de paix à notre égard. Dieu veut accomplir son dessein en nous. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai emmenés captifs. Ou deux. D'où je vous ai emmenés captifs. Ce sont les pensées de Dieu. Maintenant, comparez cela aux pensées de l'homme, en particulier les pensées de l'homme non converti, en particulier l'humanité qui est coupée des pensées de Dieu. Ésaïe 55. Des pensées très, très différentes de celles des humains. Ésaïe 55. Nous avons examiné le penseur le plus profond qui soit et les nombreuses pensées merveilleuses qu'il a, et la Bible a beaucoup plus à dire à ce sujet. Et, bien sûr, il y a beaucoup de choses que la Bible ne dit pas sur ses pensées, mais nous avons au moins regardé les grandes lignes. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est près de vous, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. C'est la genèse de l'injustice, elle commence dans l'esprit. Et l'homme injuste ses pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, et il aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Car mes pensées, Dieu dit, en établissant ce contraste, ne sont pas vos pensées, je ne pense pas comme vous, dit Dieu à l'humanité, collectivement. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Je suis un penseur très différent. Vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. Son but est que nous arrivions à penser comme lui. De même, en tant que parents, nous voulons que nos enfants viennent à penser comme nous. Nous voulons qu'ils mûrissent de telle sorte qu'ils puissent avoir des pensées justes. Dieu est pareil, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Car, de même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. Regardez le ciel et vous ne pouvez pas voir au-delà d'une certaine distance. Dieu dit, mes voix sont plus élevées que ce plafond, que vous ne pouvez pas dépasser par rapport à vos voix. Et mes pensées sont plus élevées que cela par rapport à vos pensées. Il nous invite donc à penser comme lui. C'est ce qu'il veut que nous fassions, car ce n'est pas à l'homme de penser correctement. Psaume 10. Psaume 10. Ce n'est pas dans le méchant. Ce n'est pas à l'homme charnel d'ordonner ses pensées. Psaume 10. Pourquoi te tiens-tu à l'écart, Seigneur? Pourquoi te cacher autant de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, persécute le pauvre. Qu'il se laisse prendre aux artifices qu'il a imaginés. Car le méchant s'enorgueillit des désirs de son cœur, et il bénit les cupides, que le Seigneur a en horreur. Le méchant, par l'orgueil de son visage, ne cherche pas Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Si vous voyez des gens faire de mauvaises choses, Dieu n'est pas dans leurs pensées, et encore moins dans toutes leurs pensées. Ils ne pensent pas à Dieu. Et si c'est le cas, ils pensent qu'il ne ferait rien contre ce que je fais, ou peut-être qu'il n'existe pas. Dieu n'est pas dans leurs pensées. Ses voix sont toujours douloureuses. Vos jugements sont bien au-dessus de ses yeux. Quant à tous ses ennemis, il les bouffonne. Il a dit dans son cœur : ces gens qui ne pensent pas à Dieu. Je ne serai pas ébranlé, car je ne serai jamais dans l'adversité. Peu importe ce que je fais, je n'aurai pas à rendre compte de mes actes. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et d'escroqueries. Sous sa langue se cachent la malice et la vanité. Il se tient à l'affût dans les villages, il assassine les innocents dans les lieux secrets. Cela ressemble beaucoup aux nouvelles d'aujourd'hui. Il a les yeux rivés sur les pauvres, il est à l'affût comme un lion dans sa tanière. Il est à l'affût en secret comme un lion dans sa tanière. Il est à l'affût pour attraper les pauvres. Il attrape les pauvres quand il les attire dans son filet. Il tend des pièges. Il s'accroupit et s'humilie pour que les pauvres tombent sous les coups des forts. Il a dit dans son cœur : Dieu a oublié. Voilà le seul genre de pensée que les méchants ont à l'égard de Dieu. Dieu a oublié. Il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Il ne va pas me punir, il cache son visage, il ne le verra jamais. Il est indifférent ou peut-être incapable. Lève-toi, Seigneur, Dieu, lève ta main, n'oublie pas les humbles. Pourquoi les méchants condamnent-ils Dieu ? Il a dit en son cœur, tu ne l'exigeras pas. Dans son cœur, dans ses pensées. Ce que je fais n'entraînera pas de punition. Dieu n'exigera pas de moi ce que j'ai fait. Il ne m'obligera pas à répondre de ce que j'ai fait. C'est ainsi que pense l'homme. Psaume 94. On peut le résumer ainsi dans le psaume 94. Voilà à quoi ressemble la pensée charnelle pour Dieu. Les personnes qui ont cet état d'esprit vont connaître un réveil très brutal, et elles auront l'occasion de se repentir. Il n'y a pas de doute. Ils auront l'occasion de se réveiller. Espérons qu'ils ne sont pas arrivés à un point où ils ne veulent pas se réveiller. Mais voici comment Dieu résume les pensées de l'homme. Psaume 94 et verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, elles sont vaines. Elles ne valent rien. Les pensées que l'homme produit et qui ne s'alignent pas sur les pensées de Dieu sont sans valeur. En fin de compte, elles périront. Vous savez, nous ne pouvons juger aucune des personnes qui sont décrites dans le psaume que nous venons de lire. Il y a des gens qui détestent le Seigneur. Nous n'entrons pas dans leur esprit et nous n'essayons pas de comprendre où se trouve leur esprit. Dieu fera le tri. L'important est que nous reconnaissions que les pensées humaines, les pensées coupées de Dieu, vous savez, les pensées égoïstes, les pensées vaines, quelles qu'elles soient, sont une vanité aux yeux de Dieu. Elles n'ont aucune valeur à ses yeux. Il veut que nous pensions comme lui. Genèse 6. Les pensées de l'homme ne sont pas bonnes. Genèse 6. Beaucoup de pensées sont neutres. Je ne dis pas que chacune de nos pensées doit se situer à un niveau spirituel élevé. Non. Je veux dire que si vous travaillez 8 heures par jour sur une chaîne de montage et que vous pensez au royaume à chaque instant, quelqu'un va perdre une main, ou quelqu'un ne va pas recevoir ce qui lui a été promis par la poste. C'est juste. Vous comprenez, il y a un équilibre dans tout cela. Chaque pensée ne peut pas être spirituelle. Nous ne sommes pas encore Dieu. Nous sommes en formation pour devenir Dieu. Genèse 6, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent des femmes, qu'ils choisirent toutes. Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne sera pas toujours en lutte avec l'homme, car lui aussi est chair. Mais ses jours seront de 120 ans. » En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Et après cela, lorsque les fils de Dieu entrèrent dans les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants, ils devinrent des hommes puissants, comme il y en avait autrefois, des hommes de renom. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Il y avait certains mauvais mariages qui se produisaient, ce qui n'est pas notre propos, mais la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et il y avait simplement un déclin général de la conduite, et toutes les pensées de son cœur n'étaient que du mal, continuellement. Il y a beaucoup de superlatifs dans ce verset. Toutes les pensées de son cœur n'étaient que mauvaises, continuellement, sans arrêt. L'Éternel se repentait d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur s'affligeait. Il dit, « Je détruirai l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, tant les hommes que les bêtes, les reptiles et les animaux de l'air, car je me repens de l'avoir fait. » Il était contrarié d'avoir créé l'humanité. Il regrettait de l'avoir fait. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait des pensées justes. Il vivait d'une manière différente. Il avait un but différent. Il avait un ensemble différent d'imaginations qui traversaient continuellement son esprit. Chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de toutes les souillures pures, après qu'il eut été épargné, ainsi que sa famille après le déluge, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit l'odeur du doux sauveur. Et le Seigneur dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. Je ne ferai plus ce que j'ai fait avec ce déluge. » Il était en quelque sorte résigné à ce prochain fait, si je peux m'exprimer ainsi, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je sais que Dieu disait, je sais comment l'homme est coupé de moi. Il est simplement mauvais en permanence, il n'y a pas de raison d'essayer de le détruire. J'ai un plan beaucoup plus grand pour tous les peuples, un plan que nous comprenons. Je ne frapperai plus non plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le temps des semences et des récoltes, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Regardez ce que Christ a dit sur les pensées des êtres humains, sur les pensées de l'homme. Marc 7. Marc 7. Passons un peu de temps dans le Nouveau Testament. Pas beaucoup. Le contexte ici est le nettoyage des casseroles et des poêles, le lavage des mains, le maintien de la propreté physique. Et il profite de cette occasion pour, nous reprendrons ici au verset 14. Marc 7, 14 pour dire ce qui suit. Il appela tout le peuple et leur dit, écoutez-moi, chacun de vous, et comprenez que rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller, mais que ce qui sort de lui, c'est cela qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison de la part du peuple, ses disciples l'interrogèrent sur la parabole. Ils ne comprenaient pas. Il leur dit, « Êtes-vous donc si dépourvus d'intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui vient de l'extérieur et qui pénètre dans l'homme ne peut le souiller? Elle ne peut pas le ruiner spirituellement. Cela ne peut pas lui nuire spirituellement parce que cela n'entre pas dans son cœur, dans son être le plus intime, dans son esprit, dans ses pensées pour ce qui nous concerne ici, mais dans le ventre et sort dans la bouche, purifiant toutes les viandes. Il a dit, ce qui sort de l'homme. Et quelle est la première chose qu'il a énumérée et qui sort de l'homme? Dans un sens, nous pourrions dire, de quoi devons-nous nous préoccuper le plus? Qu'est-ce qui était en tête de sa liste d'avertissements? Ce qui sort de l'homme, ce qui souille l'homme, car c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que naissent les mauvaises pensées. Tout commence là. Tout commence dans l'esprit. Si nous en recevons une, nous nous repentons, nous passons à autre chose. Si quelque chose nous travaille, nous nous y attelons. Mais tout commence dans l'esprit. Adultère, fornication, meurtre, vol, convoitise. Quelqu'un ne se réveille pas et ne tue pas quelqu'un par instinct. Il y a une raison derrière. Il s'est mis en colère, une idée lui est venue à l'esprit, ou peut-être qu'il voulait quelque chose que cette personne avait, alors il a essayé de la tuer, ou il a eu une attitude vengeresse. Tout commence dans l'esprit. Les vols, la convoitise, la méchanceté, la tromperie, la lascivité, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses viennent de l'intérieur et souillent l'homme. Dans Jérémie 4, Dieu pose une question ouverte à toute l'humanité. Jérémie 4, une question ouverte à toute l'humanité. Nous avons échappé à une grande partie de cette pensée diabolique, mais nous sommes toujours la proie du prince de la puissance de l'héritier. Nous sommes toujours la proie de notre nature humaine. Nous devons toujours lutter contre ces pensées. Cette question ouverte nous concerne. Jérémie 4, verset 14, Jérusalem. Dieu demande ou dit: lave ton cœur de la méchanceté, afin que tu sois sauvé. Combien de temps vos vaines pensées demeureront-elles en vous? Combien de temps vos vaines pensées demeureront-elles en vous? Dieu demande, nous pourrions dire l'humanité, la personnalise. Nous. Combien de temps nos vaines pensées resteront-elles en nous? Si nous transformons nos pensées, frères, nous transformerons ce que nous sommes. Les justes ont des pensées justes, souvenez-vous. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Si nous parvenons à transformer notre façon de penser, nous transformerons ce que nous sommes. Pour le reste de ce message, examinons quelques étapes à cette fin. Ce n'est qu'une formule. C'est juste une façon de voir les choses. Ce n'est pas la solution miracle. Il y a de nombreuses facettes à cette conversation, mais c'est un bon moyen de transformer nos pensées. L'examen des pensées de Dieu et des pensées de l'homme était la toile de fond parfaite pour enrichir ces étapes. C'est la toile de fond idéale pour examiner ces étapes. La première étape que nous allons examiner consiste à reconnaître que les mauvaises pensées conduisent à de mauvaises actions. Soyez-en profondément convaincus. Si nous reconnaissons que les mauvaises pensées mènent à de mauvaises actions, nous sommes sur la bonne voie. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Déjà dans les prophètes. Tout comme quelqu'un ne vole pas quelque chose sans l'avoir d'abord voulu. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur, dans l'esprit. Personne ne tue quelqu'un par accident, à moins qu'il ne s'agisse d'un homicide involontaire ou autre, c'est différent. Tout commence dans l'esprit. Ésaïe 65, verset 1. Je suis recherché par ceux qui ne m'ont pas demandé. Je suis trouvé par ceux qui ne m'ont pas cherché. J'ai dit, contemplez-moi. Regarde-moi vers une nation qui n'a pas été appelée par mon nom. J'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie qui n'est pas bonne, selon ses propres pensées. Ésaïe 65, 2. Lorsque les gens, lorsque vous et moi marchons dans une voie qui n'est pas bonne, qui a de mauvaises conséquences, que ce soit dans l'immédiat ou à long terme, lorsque nous marchons dans une voie qui n'est pas bonne, nous avons suivi nos propres pensées. Si nous suivons les pensées de Dieu, nous prospérerons. Si nous suivons les pensées de Dieu, les choses finiront bien. Nous marcherons dans une voie qui est bonne, mais les mauvaises pensées mènent à de mauvaises actions. C'est une première étape très simple et fondamentale sur laquelle il n'est pas nécessaire d'insister. À première vue, c'est logique. Ce n'est qu'un des nombreux versets qui l'explique. Deuxième étape. Parce que les mauvaises pensées mènent à de mauvaises actions, Nous devons en venir à haïr profondément les mauvaises pensées. C'est incroyablement simple. Parce que ces mauvaises pensées, dont nous savons que Dieu dit qu'elles mèneront à de mauvaises actions, nous devons haïr profondément, non seulement l'action, mais aussi la pensée qui génère l'action. La pensée qui conduit à l'action. Proverbe 24. Nous devons détester ces mauvaises pensées. Nous devons haïr les pensées de vanité, comme Dieu l'a dit, je crois, dans le psaume 94. Nous devons reconnaître que nous avons la propension à penser continuellement au mal, tout comme ces gens dans la Genèse. Proverbe 24, 9. La pensée de la folie est un péché. Les pensées sans valeur sont des péchés. C'est ainsi que nous devons les considérer parce qu'elles conduisent à pécher en action. Ainsi, les pensées elles-mêmes susceptibles d'entraîner le péché sont mauvaises. La pensée de la folie est un péché. Chapitre 30, même livre. Proverbe, chapitre 30, verset 32. Si tu as fait une bêtise en t'élevant ou si tu as combattu le mal, si une mauvaise pensée t'est venue à l'esprit, pose ta main sur ta bouche. Arrêtez-la sur le champ. Ne la laisse pas aller plus loin, c'est peut-être une autre façon de le dire. Si elle entre dans vos oreilles, posez votre main sur votre bouche, dit-il. Ne le laissez pas aller plus loin, que ce soit en parole ou en acte. Repentez-vous. Passez à autre chose. Nous devons détester les pensées qui précèdent, qui sont le précurseur de l'action. Psaume 19. Nous pensons à la pensée et notre attitude à l'égard de la pensée fera toute la différence. Nous pensons à la pensée. Psaume 19, verset 11. J'ai pris tes préceptes en héritage pour toujours, car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à pratiquer tes lois jusqu'à la fin. Je hais les pensées vaines, mais j'aime ta loi. Je hais les pensées vaines car je sais à quoi elles mènent, dit le psalmiste. Les pensées vaines sont un péché en soi, mais si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent ruiner une vie. Je déteste les pensées vaines. Si nous détestons les pensées vaines, c'est en partie parce qu'elles nous coupent de Dieu. Psaume 66. Si nous nettoyons nos pensées, si nous avons des pensées justes, nous nettoyons notre identité. Nous deviendrons plus justes. Psaume 66, verset 17. Les mauvaises pensées nous coupent de Dieu. J'ai crié vers lui de ma bouche, et ma langue l'a exalté. Verset 18. Si je garde l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'écoutera pas. Si j'entretiens l'iniquité et que je ne la chasse pas, que je ne la hais pas, que je ne chasse pas ces mauvaises pensées, que je ne demande pas l'aide de Dieu, moi personnellement, nous tous, si nous ne demandons pas l'aide de Dieu pour haïr et pour chasser ces mauvaises pensées, il ne nous entendra même pas. Si nous entretenons l'iniquité dans notre cœur, si nous l'aimons, si nous lui donnons de la place, si nous l'entretenons, il ne nous entendra pas. C'est en partie pour cela que Dieu n'entend pas les prières des gens de ce monde. Son oreille n'est pas tendue, mais l'iniquité a séparé le monde de Dieu. Il dit, je crois, ailleurs, ou dans Ésaïe, si je mets l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'écoutera pas, mais en vérité Dieu m'a écouté. Parce que je ne considère pas l'iniquité dans mon cœur. Il a écouté la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas détourné ma prière, ni sa miséricorde de moi. Lorsque nous avons des pensées justes, lorsque nous écartons les mauvaises pensées, Dieu dit, « Je t'écouterai et je t'aiderai. » C'est ce qu'il veut. Le résultat d'une mauvaise pensée est toujours mauvais. Jérémie 6, ce n'est jamais bon. Plus nous nous en rendons compte, plus nous détestons les mauvaises pensées. C'est la deuxième étape cruciale après avoir reconnu que les mauvaises pensées mènent à de mauvaises actions. Jérémie 6 et le verset 19, écoute, terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, le fruit de ses pensées, parce qu'il n'a pas écouté mes paroles, ni le droit, ni ma loi, et qu'il l'a rejeté. Les mauvaises pensées dont on ne se repent pas, surtout si elles deviennent une habitude, un caractère et une identité, recevront une réponse. Je ferai venir le malheur sur ce peuple. Dieu dit, je pense à Israël, au fruit de ses pensées, parce qu'il n'a pas écouté mes paroles. Troisième étape, nous devons nous reprogrammer pour penser comme cet ultime penseur profond. Nous devons nous reprogrammer pour penser comme Dieu. Maintenant, vous et moi, mes frères, pouvons accéder de manière unique aux pensées de Dieu. 1 Corinthiens 2. Nous avons tout. 1 Corinthiens 2. C'est difficile. C'est une bataille de l'esprit. C'est une lutte constante. Dieu dit que l'homme juste tombe sept fois, mais il se relève. Quel que soit le combat que nous menons, il y a un chemin à suivre. Dieu nous aidera si nous crions. Si nous lui demandons de nous aider avec ses pensées, cela détermine en fin de compte qui nous sommes. 1 Corinthiens 2 et verset 12. Or nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Une force différente agit en nous ou avec nous si nous ne sommes pas encore baptisés. Afin que nous connaissions les choses qui nous sont données librement par Dieu. Nous avons de grands dons. Nous avons une longueur d'avance sur le monde parce que nous sommes formés pour aider le monde. Dieu devait avoir une équipe avancée. Les choses qui nous ont été données librement par Dieu, nous les disons, non pas dans les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, en comparant ce qui est spirituel avec ce qui est spirituel. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Vous savez, nous ressemblions beaucoup à ces gens, heureusement sans aller jusqu'à l'extrême de certaines de ces entreprises meurtrières dans les psaumes, mais nous avons tous été charnels un jour. Nous avons toujours une nature charnelle. Nous étions tous là. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs qu'eux. Nous sommes meilleurs dans la mesure où Dieu travaille avec nous. Il nous nettoie. C'est ce qui se passe pour eux aussi. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut non plus les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais celui qui est spirituel juge de toutes choses, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, tandis que nous avons la pensée de Christ. Nous sommes renouvelés chaque jour. Nous sommes transformés. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre ses paroles, qui nous permet de contrôler notre pensée, qui nous permet de communiquer avec Dieu au sujet de notre pensée, qui nous permet de penser avec précision au sujet de notre pensée. Nous avons la pensée du Christ. La raison pour laquelle les pensées de Dieu sont si puissantes, la raison pour laquelle il est un penseur si profond, est exposée dans le chapitre 8 des Proverbes. Le chapitre 8 des Proverbes. Il y a une raison pour laquelle il est le penseur le plus profond qui ait jamais existé. Proverbes, chapitre 8. Cela ne devrait pas être surprenant. Il nous dit pourquoi il pense comme il le fait. Proverbe 8, la sagesse ne pleure-t-elle pas? Verset 1, et l'intelligence fait-elle entendre sa voix? Elle se tient au sommet des hauteurs, sur les chemins, elle crie aux portes, à l'entrée de la ville, à l'entrée, aux portes, à toi, ô homme, j'appelle la sagesse. Une image de mots ici. J'appelle et ma voix s'adresse au fils des hommes, ô, vous les simples, Comprenez la sagesse et vous les fous, si vous avez un cœur intelligent, ici car je parlerai de choses excellentes et l'ouverture de mes lèvres sera des choses justes, car ma bouche dira la vérité et la méchanceté est une abomination pour mes lèvres, toutes les paroles de ma bouche sont dans la justice, il n'y a rien de pervers en elles. C'est en quelque sorte l'esprit de la sagesse. Elles sont toutes claires pour celui qui comprend et justes pour ceux qui trouvent la connaissance, reçoivent l'instruction, et non l'argent et la connaissance plutôt que l'or de choix, car la sagesse vaut mieux que les rubis, et toutes les choses que l'on peut désirer ne lui sont pas comparables. C'est ainsi que Dieu considère la sagesse. C'est ainsi que Dieu a inspiré Salomon à consigner la sagesse. Alors que nous nous dirigeons vers quelque chose d'étonnant plus loin dans ce même chapitre. La crainte de l'Éternel consiste à haïr le mal, l'orgueil, l'arrogance dans la mauvaise voie et la bouche perverse. Le conseil m'appartient, la sagesse aussi. J'ai de l'intelligence. J'ai de la force. Toutes les caractéristiques que nous pourrions désirer. Par mon règne de roi et mon décret de prince, la justice, par mon règne de prince, et les nobles, et même tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent de bonheur me trouveront. Les richesses et les honneurs sont avec moi. Oui, des richesses durables et la justice, car mon fruit est meilleur que l'or. Oui, de l'or fin. Et mes revenus, de l'argent de choix. Une valeur inégalée. Je conduis sur le chemin de la justice, au milieu des coussins du jugement, afin de faire hériter des biens à ceux qui m'aiment, et de remplir leurs trésors. Pourquoi Dieu est-il un penseur si profond? Pourquoi pense-t-il comme il le fait? Pourquoi veut-il que nous pensions comme lui afin que nous puissions entrer dans sa famille et lui ressembler? Verset 22, l'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres d'autrefois. La sagesse est le système d'exploitation de Dieu, si l'on peut utiliser une analogie informatique. Il agit en fonction de la sagesse. Avant de créer quoi que ce soit, il a utilisé la sagesse. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres d'autrefois. J'ai été établi dès l'éternité. J'ai toujours été là, car c'est ainsi que fonctionne l'Esprit de Dieu. Depuis le début, quel que soit l'endroit où se trouvait la terre, d'une manière ou d'une autre, la sagesse a toujours été avec Dieu. C'est l'un des mystères de l'univers, tout comme nous ne pourrons probablement pas comprendre, tant que nous ne serons pas dans la famille de Dieu, comment Dieu a toujours été là. La sagesse est là depuis toujours. Les paroles de ce livre, le mode de vie décrit dans ce livre, les choses qui mènent aux bonnes choses ont en quelque sorte, il y a une loi immuable qui a toujours été là. La sagesse contenue dans ce livre est éternelle et Dieu choisit de la partager avec nous. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté, quand il n'y avait pas de source abondante en eau. Avant les montagnes, avant les collines, j'ai été engendré, alors qu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les champs, ni la plus grande partie de la poussière du monde. Lorsqu'il a préparé les cieux, j'étais là. Lorsqu'il posa un compas sur la face de l'abîme, lorsqu'il établit les nuages au-dessus, lorsqu'il affermit les fondements de l'abîme, lorsqu'il donna à la mer son décret pour que l'eau n'échappe pas à son ordre, lorsqu'il établit les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui comme quelqu'un qui avait été élevé avec lui. Je faisais chaque jour ses délices, je me réjouissais toujours devant lui, je me réjouissais dans la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient avec les fils de l'homme. Maintenant, écoutez-moi, mes enfants, car heureux ceux qui gardent ses voies. La sagesse dit, gardez les voies de Dieu. Appliquez la même sagesse que celle qu'il applique depuis toujours, et tout ira bien pour vous. Écoutez l'instruction, et soyez sages, et ne la refusez pas. Pensez comme Dieu, nous dit la sagesse. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, qui attend au poteau de mes portes. Lorsque nous ouvrons notre Bible, nous veillons chaque jour aux portes de la sagesse, nous attendons au poteau de ses portes. Car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à son âme, et ceux qui me haïssent aiment la mort. Troisième étape. C'est pourquoi les pensées de Dieu sont si puissantes. Nous devons nous programmer, nous reprogrammer pour penser comme Dieu, et heureusement, nous avons sa pensée imprimée. Heureusement, nous pouvons venir chaque semaine et entendre sa pensée. Heureusement, nous avons accès à des outils dans l'Église, qu'il s'agisse de magazines, d'études bibliques ou, maintenant, d'études sur la nouvelle lune. Nous avons accès à des choses que d'autres n'ont pas. Nous pouvons comprendre cette sagesse qui existe depuis toujours. Je n'arrive pas à me faire à l'idée, mais ces principes qui nous sont donnés sont avec Dieu depuis toujours. C'est en quelque sorte la raison pour laquelle il est Dieu, la raison pour laquelle il est le Dieu que nous connaissons, la raison pour laquelle il agit comme il le fait. L'étape suivante consiste à utiliser les pensées et la sagesse de Dieu pour examiner nos propres pensées et notre propre sagesse. Nous devons comparer les pensées de Dieu à nos pensées. Nous pourrions revenir à la première partie de ce message où nous avons examiné les pensées de Dieu et ensuite les pensées de l'homme. C'est un exercice en soi, mais nous devons utiliser les pensées de Dieu pour examiner les nôtres. Psaume 1 à 3 à 9. Dieu connaît nos pensées. Il est intimement conscient de nos pensées. Nous ne pouvons pas lui cacher nos pensées. Psaume 139, verset 2. Tu connais mon assise. En fait, commencez par le premier verset si vous le voulez bien. Seigneur, tu m'as sondé et tu m'as connu. Dieu sait qui nous sommes. Tu connais ma position assise et ma révolte, tu comprends mes pensées au loin. Dieu comprend nos pensées mieux que nous-mêmes. Il est parfaitement conscient de ce qui se passe dans notre esprit. C'est toi qui traces mon chemin et qui me fais reposer. Tu connais toutes mes voies, car il n'y a pas un mot dans ma langue, mais, Seigneur, tu sais tout. Heureusement, il est extrêmement miséricordieux, mais il veut que nous sachions qu'il est conscient de ce que nous pensons et qu'il est prêt à nous aider. Verset 23, même psaume, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mes pensées. David dit, examine mes pensées, et s'il y a en moi quelque mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Dieu connaît nos pensées. Et il veut nous aider à les nettoyer. C'est l'étape suivante. Revenons au psaume 19. Si nous pensons à nos pensées de manière efficace, si nous méditons régulièrement sur nos pensées, si nous appliquons certaines de ces étapes et d'autres que nous pourrions trouver par nous-mêmes ou d'autres que nous pourrions avoir trouvées utiles par expérience, alors ce qui suit se produira. Psaume 19, verset 57. Tu es ma part, Seigneur, j'ai dit que je garderai tes paroles. J'ai imploré ta faveur de tout mon cœur. J'ai crié à Dieu, j'ai demandé de l'aide, j'ai osé me présenter devant son trône quand j'étais dans le besoin. J'ai réfléchi à mes voies et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. J'ai réfléchi, j'ai considéré ce que je faisais par rapport à ce que tu fais et à ce que tu attends de moi. Et j'ai fait tous les efforts possibles pour tourner mes pieds vers tes témoignages. J'ai fait ma part. Il dit. Et lorsque nous faisons notre part, lorsque nous faisons de notre mieux pour obéir à Dieu, lorsque nous pensons à nos voies et essayons de vivre les siennes, une chose étonnante se produit. Proverbe chapitre 16. Nous entrons dans un certain cycle ou une certaine boucle qui est basée sur la pensée et l'action. Si nous faisons le premier pas, si nous tournons nos pieds vers Dieu après avoir vu où nous nous sommes trompés, il nous promet quelque chose. Proverbe 16, verset 1. Les préparatifs du cœur sont dans l'homme, et la réponse de la langue vient de l'Éternel. Donc, si nous préparons notre cœur, si nous préparons ce qui se passe dans notre esprit, il guidera notre langue, il guidera nos paroles. Mais cela ne s'arrête pas là. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais le Seigneur pèse les esprits. Il examine constamment ce qui se passe en nous. Confiez vos œuvres au Seigneur. Si nous nous engageons à vivre à la manière de Dieu, si nous faisons de notre mieux pour vivre à la manière de Dieu, si nous tournons nos pieds pour vivre à la manière de Dieu, quand nous verrons que nous avons tiré, il dira qu'il affermira nos pensées. Confiez vos œuvres à l'Éternel, et vos pensées s'affermiront. Si Dieu affermit nos pensées, le fruit sera évidemment bon. Les pensées des justes sont justes. C'est donc un peu comme si l'on se demandait qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. Si nous avons des pensées justes et que nous essayons de vivre à la manière de Dieu, eh bien, il dit, « Quand vous essayez de vivre à ma manière, quand vous me confiez vos œuvres, j'établirai vos pensées. » Si nos pensées sont justes, nous sommes justes. Nous vivons à la manière de Dieu. C'est un butin permanent. Mais tout commence dans l'esprit. Où est-ce que cela commence par nos actions pour qu'il établisse nos pensées? C'est une autre façon de voir les choses. Mais les pensées sont le fondement de tout cela. Nous n'agirons pas selon la volonté de Dieu, nous n'agirons pas selon la parole de Dieu si nous n'ordonnons pas nos pensées. Vous savez, Dieu dit qu'il est amour. C'est ce que nous aspirons à être en fin de compte, Dieu. Il ne se contente pas d'avoir de l'amour, il est l'amour. Et vous voudrez peut-être le lire, mais l'une des descriptions de l'amour dans 1 Corinthiens 13, avant de passer à notre dernière écriture ici, est que l'amour, verset 5, 1 Corinthiens 13, l'amour ne pense pas au mal. C'est là que cela commence. Il pense aux autres, d'autres écritures le disent, mais il ne pense pas au mal. Dieu, dans son fondement, ne pense pas au mal, il pense à d'autres choses, et il nous donne une liste de ce à quoi il faut penser, et nous terminerons par ceci. Philippiens 4 et 8. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous pouvons penser. Nous avons beaucoup réfléchi à ce qu'il faut penser dans ce message. Nous avons beaucoup réfléchi à ce que Dieu pense. Nous avons beaucoup réfléchi à ce que nous ne devrions pas penser. Nous avons beaucoup réfléchi à ce que nous devrions penser. Mais voici une liste claire qui englobe tout. Philippiens 4:8. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête. Vous savez, ta parole est vérité, dit Dieu. Où Christ a dit à propos de la parole de Dieu. Tout ce qui se trouve ici est bon à méditer, tout ce qui est vrai, honnête, juste, pur, beau. Imaginez ce que nous vivrons bientôt, ce que toute l'humanité vivra bientôt, si vous avez une bonne réputation, si vous êtes vertueux, si vous avez des louanges, pensez à ces choses. Ce que vous avez appris et reçu, entendu et vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Frères et sœurs, réfléchissons davantage à ce à quoi nous pensons. Les récompenses sont énormes. Aligner nos pensées sur celles de Dieu peut faire toute la différence à court terme et pour l'éternité.